Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour à tous, bonjour à Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonjour Pierre. Bonjour.
Au programme de votre émission ce samedi, hier, Vladimir Poutine a soufflé ses 70 bougies. Son plus beau cadeau d'anniversaire serait une victoire totale sur l'armée ukrainienne. Mais au dernier des comptes, on en est loin et c'est plutôt le contraire. Les Européens s'en mêlent, en remettent une couche avec 100 millions d'euros de participation à l'effort de guerre. Emmanuel Macron l'a annoncé hier. Alors que va faire le chef du Kremlin? Doit-on craindre une apocalypse nucléaire comme le redoute Joe Biden? Premier sujet de discussion des grandes voix. Je baisse, j'éteins, je décale. Après le col roulé de Bruno Le Maire, voici le slogan pour le plan de sobriété. Tous mobilisés pour des économies plutôt que des coupures subies, c'est le mot d'ordre. La ministre Pannier-Runacher a même inventé les Français en état de sobriété énergétique, sobriété subie, pour ne pas dire les pauvres. N'est-ce pas là le triste résultat de fermetures successives de centrales nucléaires depuis 2018? Les grandes voix vous répondent. Et puis quand Jean-Luc Mélenchon vous fait le remake de Retour vers le futur, l'ancien candidat à la présidentielle appelle via Twitter les Français à descendre dans la rue le 16 octobre pour faire mieux qu'en 1789. Un appel à l'insurrection que craignent d'ailleurs certains dans les rangs de la NUPES. Mais n'est-ce pas là en même temps une marche vers l'implosion? Réponse en fin d'émission. Vous avez le programme? Les grandes voix, c'est parti. La Russie lance ce matin une enquête criminelle sur l'explosion du pont de Crimée, car en toute fin de nuit, une voiture piégée a explosé sur ce pont, entraînant l'incendie de 7 citernes ferroviaires qui justement se rendaient vers ce pays. Nouveau revers pour l'armée russe sur le front ukrainien. Vladimir Zelensky a annoncé jeudi soir la reprise de milliers de kilomètres carrés de territoire. Il dit que plus d'un demi-millier de kilomètres carrés de territoire et des dizaines de colonies ont été libérées du simulacre de référendum russe. Voilà ce que dit le président ukrainien. Il y a aussi des succès à l'Est. Un jour viendra, dit Zelensky, sûrement, où nous communiquerons sur des victoires dans la région de Zaporijja. Charles Villeneuve, est-ce qu'on est à un tournant?
Oui, on est à un tournant et un signal politique le démontre parfaitement. Les revers de l'armée russe ont fait monter au créneau de la critique de l'état-major de l'armée deux des meilleurs protégés de Vladimir Poutine, le Tchétchène Ramzan Kadyrov, que Poutine a fait d'ailleurs général d'armée, colonel général, et Evgeny Prigogine, fondateur de la milice Wagner, engagé dans les combats en Ukraine et responsable de pas mal des exactions constatées en Ukraine. Alors la cible, c'est manifestement le ministre de la Défense Shoigu, à qui on semble vouloir faire porter le chapeau des échecs de l'invasion. Vladimir Poutine lui-même a sermonné le ministère de la Défense, sans nommer Shoigu, le ministère de la Défense, faisant remarquer qu'il n'avait pas modifié en temps utile le cadre juridique des personnes non mobilisables, c'est-à-dire les étudiants. Donc, partant de là, il est bien évident que ce sont des protégés, je l'ai dit, je le répète, de Poutine. Et ils savent très bien que si Poutine était écarté, éventuellement, c'est eux qui seraient sortis de la scène. Et ça, c'est un signe politique évident parce qu'ils sont montés au créneau avec le feu vert, bien sûr, et poussé par le chef du Kremlin.
Gérard Carrérou.
Oui, moi, ce que je voudrais, c'est essayer de décoder l'apocalypse, parce qu'au fond, c'est quand même ça qui a été la phrase de la semaine, lorsque le président Biden a évoqué la perspective, dans un discours, la perspective d'une apocalypse nucléaire. Et l'apocalypse selon, pas selon saint Matthieu, mais selon saint Joe. Alors, il y a plusieurs choses à dire, notamment, il ne faut jamais oublier, quand on parle de Biden, que c'est un des anciens, si on peut dire, combattants de la guerre froide, la première guerre froide, celle qui a duré 50 ans. Il a eu comme adversaire les Russes, les Soviétiques, mais c'était les Russes d'aujourd'hui, et il considère qu'il faut continuer à avoir une attitude comme ça. Premier point. Deuxième point.
Il fait référence à 62 et la crise des missiles cubains.
Absolument. Et puis deuxième point, il ne faut jamais oublier, et on en est qu'à 4 semaines, dans 4 semaines, il y a les élections à mi-mandat aux États-Unis, dans lesquelles normalement le parti de Biden, les démocrates, devait prendre une véritable défaite, et qu'il espère juguler, enrayer cette défaite avec la guerre. Donc ça, c'est deux éléments importants. Et on peut dire un troisième élément, il est normal qu'un président américain n'exclue pas le recours au nucléaire, parce que ça voudrait dire, monsieur Poutine, c'est vous qui décidez, si vous utilisez le nucléaire, nous eh bien aussi. Allez-y, de toute façon, nous ne vous répondrons pas de la même manière. Donc il y a aussi une obligation pour ouvrir la panoplie, pour laisser la panoplie ouverte, de dire qu'effectivement, il pourrait l'utiliser. Cela étant, est-ce que ça veut dire qu'il va l'utiliser ? Il y a eu quand même une atténuation, et je finis là-dessus, une atténuation par la Maison-Blanche qui a dit « rien ne nous permet aujourd'hui de voir qu'il y a une évolution de la pensée de Poutine. »
Catherine.
Mais avant de parler d'apocalypse, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que dit au début Biden devant, d'ailleurs, c'était des gens qui apportaient de l'argent pour sa campagne. Il a dit, au fond, l'interrogation, c'est comment Poutine peut-il s'en sortir de façon à ne pas perdre la face, ni perdre une portion significative de son pouvoir. Poutine ne plaisante pas quand il parle d'un usage potentiel d'armes nucléaires. Voilà. La question, c'est que peut faire Poutine ? Comment va-t-il démontrer qu'il réussit ? Or, on voit bien que tout ce qu'il entreprend aujourd'hui est en train même de se... on sait que ça ne va pas réussir. La mobilisation générale, on voit qu'il n'est pas capable, que l'armée russe n'est pas capable d'accueillir ces gens. On a vu des images incroyables de ces réservistes auxquels on donnait à la place de chaussettes des bouts de tissu à enrouler autour de leurs pieds, comme c'était ce qui restait de 1940. Et vous vous souvenez que si Staline a pu terminer la guerre, c'est grâce aux Américains qui avaient envoyé notamment quoi aux Russes ? Des bottes. Des chaussures, ils n'avaient pas d'équipement. Et moi, je crois que depuis cette période-là, la Russie ne s'est pas occupée de l'équipement de ses soldats. C'est des chairs à canon, ils s'en moquent. Et donc, elle ne peut pas réussir parce que ces gens-là ne se battront pas. Ils ont compris que la Russie n'était pas envahie, mais qu'on leur faisait jouer le rôle d'envahisseur.
Michel Cotta.
Oui, moi, je crois que c'est un peu plus compliqué. Je méfie quand même des images avec les bandes molletières. Je méfie de ces images. Mais enfin, tu as raison, on a vu quand même, on voit des scènes qu'on n'aurait pas osé imaginer sur l'armée russe. Mais je trouve, en partant de Biden, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de glissement de communication sur cette affaire. Par exemple, quand Biden parle d'apocalypse, moi, je trouve que c'est une erreur. Je trouve que c'est une erreur d'en parler aussi fort. La preuve, c'est qu'on a l'impression que la Maison-Blanche, absolument affolée, dit non, mais c'est pas du tout...
Elle parce a rétro-pédalé hier.
Elle a rétro-pédalé, Mais c'est pareil un peu pour Zelensky. Quand Zelensky parle de frappe préalable, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de frappe préalable ? On se dit, mais quoi, il veut une guerre atomique directement.
Bon, Zelensky, on a du mal à suivre, parce que c'est les prévisions météo. C'est-à-dire que tous les jours, on a un nombre de kilomètres carrés différents qui tombent.
Et la preuve, c'est que Zelensky, lui aussi, dans l'après-midi, on dit non, mais c'est pas il ne voulait pas dire frappe. Il voulait dire sanction. Bon, c'est-à-dire qu'il y a quand même... on a des gens dont on sent mal... Comment ils vont sortir de tout ça ? Poutine, effectivement, on peut dire qu'il faut lui laisser une porte de sortie, mais là, manifestement, laquelle ? Il n'y en a pas. On se dit, s'il n'a pas de porte de sortie, il ne peut pas perdre. S'il ne peut pas perdre, qu'est-ce qu'il fera ? Et dans le même temps, Zelensky fait monter les enchères d'une manière absolument énorme.
Qu'est-ce que peut faire Poutine ? C'est la question qui revient tout le temps.
Je voudrais revenir sur ce que, notamment, la déclaration du président des États-Unis.
Oui.
S'il en a remis une couche aussi, c'est l'état des discussions à la Maison-Blanche. Et c'est le fait de rappeler aussi à son homologue Poutine qu'il a des obligations, notamment ce qu'on appelle dans la déclaration de non-prolifération des armes nucléaires, la garantie de sécurité. Les 5 puissances nucléaires membres du Conseil de sécurité, dont la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et bien sûr les États-Unis. La Russie a signé cette clause, c'est la 10e clause de ce traité, de garantie de sécurité. Que dit cette garantie de sécurité ? C'est qu'un pays nucléaire qui détient l'arme atomique ne peut pas frapper un pays qui n'en est pas doté.
Ouais. Mais est-ce que ça compte encore, ça, aujourd'hui, en temps de guerre ?
Non, c'est pas un temps de guerre. C'est la guerre entre la Russie
et l'Ukraine.
Oui. Ce n'est pas une guerre mondiale.
J'entends bien, mais est-ce que ça compte encore ?
Il n'y a que 4 pays, d'ailleurs, qui n'ont pas signé ce traité et cette garantie de sécurité. C'est Israël, c'est l'Inde, c'est le Pakistan, et c'est depuis 3 ans un pays qui s'est retiré, la Corée du Nord, qui se livre d'ailleurs à des essais nucléaires. Et cette garantie de sécurité, c'est dans le traité. La deuxième chose, c'est que pour répondre aussi à mes camarades, c'est que l'Ukraine, il y a un signe, là aussi, qui n'est pas un signe politique, mais qui est un signe militaire, c'est que l'Ukraine est devenue un véritable cimetière de blindés russes.
Mmh. Mmh.
Il faut savoir qu'on a donc identifié plus de 1246 chars d'assaut russes au tapis.
Mmh. Mmh.
Plus à peu près 45% de ces chars qu'on n'a pas réussi à identifier. On ne sait pas ce que c'est. Bon. Mais de considérer que l'armée russe a perdu la guerre, c'est largement prématuré. Pour une raison simple, c'est qu'elle a en réserve, le long de la frontière de l'Ukraine, une réserve de l'aviation, notamment des chasseurs et des bombardiers Tupolev, considérable, qui ne sont jamais rentrés quasiment en lice, parce qu'ils redoutent évidemment tous les Stinger, tous les missiles solaires dont sont dotés Et dernièrement, il faut savoir que l'état-major ukrainien, dans son quartier général, bénéficie de tous les renseignements des Américains qui sont livrés en direct à l'état-major à partir des satellites de la NSA.
Une pause et on revient avec les grandes voix.
Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Neschar-Villeneuve et Gérard Carreau qui voulait reprendre notre discussion
sur
l'Ukraine.
Oui, parce que je crois que dans cette guerre, il y a un certain nombre de choses. Il y a les faits, je ne veux pas les rappeler à nouveau. Vous avez rappelé les pertes, elles sont lourdes en chars et en autres véhicules et en hommes et en blessés pour les Russes. Donc ça, c'est les faits.
Et pour les Ukrainiens aussi.
Et pour les Ukrainiens, mais en tout cas pour les Russes. Il y a du coup... Avec ces faits, il y a un effet de dynamique politique. La dynamique politique, mondialement, aujourd'hui, est plutôt à dire, alors qu'on pensait que l'Ukraine serait battue, l'Ukraine peut gagner. L'Ukraine n'a pas gagné, mais l'Ukraine pourrait gagner ou peut gagner. Ça, c'est un mouvement qu'on voit se développer et qui est repris par les assemblées. Il y a après les faits et après la dynamique, il y a ce que j'appellerais un effet de mode ou un effet de meute qui va dans le sens de pratiquement les Russes sont à genoux. Là, heureusement, été plus prudents avec Charles à l'instant. Mais il y a cette tendance de dire après tout, les Russes sont à genoux, allons-y. Et on entend ces voix que j'ai déjà dénoncées, mais que je continue de dénoncer, comme celle d'Ursula von Leyen, qui sont les bellicistes de service. Mais ce que je redoute, et moi je finirai là-dessus, je redoute ce glissement de la France qui, ayant au départ une position extrêmement équilibrée et prudente, a tendance, et peut-être c'est une tendance de notre président de la République, de temps en temps de se laisser emporter. Je trouve qu'actuellement, on est en train de glisser très nettement vers une position de co-belligérant, en ayant annoncé de nouveaux... Et quand on dit, par exemple, que les Césars, les fameux canons Césars, dont on a déjà donné 18 sur 60 et quelques, c'est
73.
Beaucoup. Sur 73. C'est beaucoup. Et qu'on va probablement prendre ceux qu'on allait livrer au Danemark.
Oui. Non, pas probablement, tu peux être sûr.
Oui, sûr. Ben, raison de plus. Je dis qu'on ne peut pas défendre, enfin en tout cas on peut, mais je veux dire, on ne peut pas comparer avec ce qui s'est passé, par exemple, pendant la guerre du Vietnam et la position du général de Gaulle, ou pendant la guerre d'Irak et la position de Jacques Chirac, avec ce qui se passe actuellement. Nous sommes aujourd'hui atlantistes. Nous sommes derrière, je n'irai pas dire caniche des Américains, mais nous sommes à la remorque des Américains complètement.
Nous sommes une annexe de l'OTAN.
Voilà. Oui,
Michel
voilà.
Non, mais moi j'allais dire, j'abonde tout à fait dans ce sens. Moi j'avais trouvé que la première position d'Emmanuel Macron qui consistait à dire ça a beaucoup fait réagir les gens, il ne faut pas humilier Poutine et il faut lui garder une porte de sortie. Je trouvais que c'était quand même quelque chose de sensé, parce que moi je vois que plus Poutine est acculé, plus le danger d'une riposte est grande. Donc je suis étonnée que tout ça que les uns après les autres tout ça aille au comble. Ça me rappelle vraiment des tas de déclarations de guerre. Hein. Chacun fait ses alliances, chacun va le plus loin possible, et le plus loin possible, on ne sait pas ce que c'est. Donc je trouve que il serait temps quand même que quelques voix se lèvent plus fort qu'aujourd'hui pour dire il faut quand même, à un moment donné, préparer la paix, et peut-être le dire directement à Zelensky.
Mais c'est un peu ce qui a été...
Non, mais m'étonne.
Zelensky
France...
n'écoute pas ça.
Non, mais...
Je m'étonne que la France, puissance nucléaire, ne dise pas un mot par rapport à la remarque du président des États-Unis. Il serait normal que le président français rappelle justement que tous sont signataires du traité de non-prolifération des armes nucléaires, et que normalement, la France a voix au chapitre sur ce plan-là et le dise. Je m'étonne de ce silence.
Catherine Ney.
Oui, enfin...
On a Emmanuel Macron qui a aussi...
Mais on voit bien que l'autre jour, lorsqu'il a annexé les quatre régions du Donbass, Poutine a lancé un truc en disant « demande un cessez-le-feu ». Bon, il a réuni aussi ses amis de l'Asie centrale là, qui trouvent qu'ils ne sont plus protégés par lui et pourraient prendre un peu la poudre d'escampette et ce qui menace l'Empire d'une certaine manière. Et il leur a dit « mais on va arriver à un compromis ». Mais qu'est-ce que c'est un compromis dans cette histoire pour le président Poutine ? Eh bien, c'est de dire, voilà, on garde le Donbass, on s'arrête là, et puis on arrête. Mais ça, c'est une chose que ne veut pas accepter Zelensky. Est-ce que lui aussi doit faire un pas et dire, un compromis. Est-ce que ça va se terminer comme ça ? Mais pour l'instant, c'est toute la nation ukrainienne qui est contre ce compromis. Enfin, je pense.
Il y a quand même quelques signes. Je ne sais pas si vous avez entendu un reportage sur une femme du Donbass qui disait « On s'en fout. Est-ce que c'est les Russes ? Est-ce que c'est nous, on veut être tranquilles ?»
Ah, mais ça, d'accord.
C'est horrible. Hein.
Mais d'accord, mais ça, c'est le Donbass.
Michel,
mais ceux qui ne sont pas...
Ils vont coucher par moins 30 degrés sans avoir...
Mais oui, oui. Ce que vient de dire, d'ailleurs, Catherine. Oui. Est-ce qu'on accepterait qu'on annexe l'Alsace et la Lorraine et qu'on soit amputé de ces deux régions ? Est-ce qu'on accepterait
surtout avec Poutine, il faut se méfier. Catherine. Parce qu'en Tchétchénie, il y avait eu un cessez-le-feu. Hein, avant qu'il arrive au pouvoir, on n'en parlait plus. Et lui, il est arrivé et il a fait une guerre totale. Il a tout démoli au nom d'envoyer tous ces gens, comme il disait, dans les chiottes.
Et cette déclaration d'Emmanuel Macron qui dit, voilà, il y a 100 millions d'euros pour l'effort de guerre en Ukraine. Mais, qu'est-ce qu'on en pense ?
Je veux dire une chose quand même. Parce qu'on a construit la 5e République contre la 4e République, en partie sur un clivage qui était le clivage entre les atlantistes et ceux qui n'étaient pas atlantistes, c'est-à-dire alignés derrière les États-Unis systématiquement. On les appelait les atlantistes, et il y avait là-dedans la SFIO de Guimolet et des partis socialistes, etc. Aujourd'hui, par des glissements successifs, on est arrivé, et là, dans cette guerre...
C'est pour ça que on est
devenu totalement... suiviste par rapport à... Alors, on est, bien sûr, on dit qu'on n'est pas suiviste des États-Unis, on est suiviste de la position de l'OTAN. Mais comme la position de l'OTAN est exactement le calque de la position américaine, nous sommes devenus des suivistes de la position... Disons-le. Peut-être
non,
que
mais
les Français le veulent ça. Mais disons-le.
Encore une fois, je remarque que quand, dès le début, Emmanuel Macron a dit il faut ne pas humilier Poutine, ça a été, mais il s'est fait lyncher par tout le monde. Les gens changent d'avis, on change d'avis, évidemment, au fur et à mesure que la guerre... Mais on l'a presque lynché, toute la presse l'a lynché.
C'est vrai.
Il avait raison là-dessus. En
revanche,
100 millions, je ne suis pas sûr qu'il ait raison. Voilà.
Non, mais on ne sait jamais comment peuvent bouger les choses et sur un incident mineur. Bon, là, il y a quand même eu... les Américains ont quand même dit à Zelensky qu'il y avait des lignes rouges à ne pas franchir, c'est-à-dire ne pas toucher au pont qui relie la Crimée.
Oui.
Bon. Or, il s'est passé cette nuit quelque chose, c'est-à-dire un wagon de pétrole ou de combustible qui était en queue d'un train a pris feu, a explosé et ça a gravement entamé le pont. Donc c'est bon, et les Russes demandent une enquête parce qu'ils imaginent que ce sont les Ukrainiens, alors que c'est peut-être tout simplement l'incurie russe des chemins de fer, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que là, c'est sur un incident comme ça, mineur, qui peut être majeur pour les Russes, qui peut se passer n'importe quoi, avec des gens comme Kadyrov qui dit faut y aller très fort, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à un moment du conflit. Où, d'abord, c'est une guerre unique, ça ne s'est jamais produit, une chose comme ça en Europe. C'est un cas inédit. Et on sent très bien que voilà, les choses peuvent dégénérer sur des incidents de la sorte.
On sent que Poutine, on est tous en train de dire, c'est vrai, que c'est un chef de guerre.
Bon,
on n'est pas sûr que si Poutine était par hasard écarté, ce soit pour une raison... moins radical et pour ramener la paix. On craint qu'il y ait beaucoup de faucons autour de Poutine.
Quand même. Est très puissant.
Oui. Une nouvelle pause avec les grandes voix et on revient juste après.
Europe 1, Pierre de Villeneuve.
avec les grandes voix que sont Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrère. Mobilisation générale, c'est le matin. Mobilisation générale, c'était le mot d'ordre porte de Versailles cette semaine avec la première ministre Elisabeth Borne et une équipe de ministres qui ont présenté le plan gouvernemental d'économie d'énergie. Je baisse, j'éteins, je décale. Emmanuel Macron, de son côté, a appelé depuis Prague les Français au calme concernant les stations d'essence. Michel Cotta, vous n'arrivez pas à garder votre calme, j'ai l'impression, sur ce
non,
sujet-là.
Non, je veux dire, là, je suis très, très en colère. Je suis très en colère, parce que je trouve que c'est une des affaires les plus mal gérées. Les gens sont en grève depuis une semaine. Il me semble que le ministre des Transports aurait pu prendre des mesures
une pour acheminer... Une station service sur cinq qui est impactée.
Pour acheminer. Bon. Or, on nous dit depuis quatre jours... Ah, mais il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie. Non, non, c'est juste une question de transport, mais il n'y a pas de pénurie. Moyennant quoi, il faut regarder Paris aujourd'hui, il faut regarder l'Île-de-France, et on s'est tous laissé avoir en se disant il n'y a pas de pénurie, on peut attendre demain. Bon, et je trouve que vraiment, c'est une gestion de cette affaire.
Vous êtes à marée basse,
absolument, oui. Moi, je suis à marée très, très basse, même je ne sais pas si je peux ressortir d'ici. Mais je veux dire, je trouve que c'est...
Vous allez faire du covoiturage avec Catherine.
C'est une gestion... absolument incroyable. On en a connu d'autres. On en a connu, par exemple, quand Jean-Louis Borloo était ministre des Transports. Bon, on a prévenu, deux, on a réquisitionné à un moment donné, et on n'a pas, comme l'a dit,
dimanche,
comme l'a dit hier le président de la République avec un air angélique, qui est le sien, j'appelle à la responsabilité. Ben, y a un moment donné où il faut aller plus loin qu'appeler à la responsabilité des gens qui, manifestement, à juste titre, demandent peut-être des augmentations de salaire, mais sont, comme par hasard, CGT, à la veille d'une grande manifestation sur le travail.
Gérard Carrère.
Écoutez, moi je trouve que de la sobriété affichée par Madame la Première Ministre au pas de panique du Président de la République, en fait les deux choses vont d'ailleurs dans le même sens. En fait, les deux discours qui sont très complémentaires, ils font monter, qu'est-ce qu'ils font monter? Ils font monter une forme de, je dirais pas d'angoisse, le mot serait trop fort, d'inquiétude en tout cas, d'inquiétude sur l'avenir, et c'est pas le plan rentre en plan là, des trois... Je me souviens déjà plus, les on baisse, oui. Je sais pas quoi, on baisse.
Non. Je baisse, j'éteins,
non, oui, je bon, décale. C'est le plan rentable.
D'ailleurs, qui est alors déjà là, détourné
plus,
par
là, en plus, on retombe dans ce qui avait été un des défauts de la politique Covid, c'est-à-dire qu'on infantilise les gens, quoi. Comme s'ils ne savaient pas qu'il vaut mieux fermer les lumières que les allumer dans toutes les pièces,
etc. On n'est pas à Versailles, ici. Il y a l'enfant qui n'est pas venu là-dessus.
Je trouve, ça oublie ce plan. Ce plan rentant plan oublie deux choses. Il fait diversion. Diversion pour l'exécutif par rapport à la responsabilité formidable qui est celle des gouvernements de Hollande et de Macron, des gouvernements, puisque finalement les deux sont co-responsables, là on parle de co-belligérants, ils sont co-responsables du démantèlement du les nucléaire centrales. Français. Si on avait aujourd'hui, non pas les centrales arrêtées parce qu'on ne les a pas entretenues, parce qu'on disait qu'on allait les arrêter de toute façon, il y aurait à peu près l'électricité qu'il faut cet hiver, et là on est en train de migoter sur des trucs. Donc première chose, il y a cette responsabilité. Et deuxièmement, il y a ce que j'appelle l'Orwell Light, c'est-à-dire le Big Brother léger, le Big Brother léger, qui est de dire, attendez, on va rentrer un peu partout chez vous, y compris quasiment pour vérifier le compteur, pour voir si votre... Ça, je n'accepte pas cette infantilisation de la société française. Et sans que le Parlement se soit prononcé, d'ailleurs,
Catherine.
Parce qu'il se prononce ni sur l'Ukraine, ni sur ça.
Catherine, je baisse, j'éteins, je décale.
Oui, mais... Oui, mais moi, je le fais à la maison.
Non, mais vous parliez de détournement. Donc
non, il y a un détournement, mais je n'en parlerai
elle
pas.
Elle est toute rouge,
bon,
Catherine.
Non. Ce que je vais vous dire, c'est que ce qui est extraordinaire, vous voyez, c'est que en Angleterre, le rapport du National Grid, qui est le gestionnaire du réseau électrique, qui dit, attention, on pourrait avoir un scénario où on manque de trucs, donc il y aura des coupures de courant ponctuelles. Eh bien là, Madame Liz Truss, la nouvelle ministre,
première ministre britannique,
pour l'instant, refuse de dire aux Britanniques qu'il faut diminuer leur consommation d'énergie, refuse de leur dire qu'il faut plutôt prendre un bain qu'une douche. Et elle dit, refuse de leur dire débrancher les choses, parce qu'elle dit, elle ne veut pas être un État nounou qui dicte aux gens ce qu'ils doivent faire dans la tradition du Parti conservateur. C'est-à-dire qu'elle, pour l'instant, elle a de quoi faire, elle voit venir l'hiver, et on verra bien. Et pour l'instant, c'est la politique absolument inverse.
Ouais, il y a eu, un précédent avec Winston Churchill où il y avait une grande crise énergétique. Les Londoniens...
Mais ça ne me gêne pas. Je reprends.
Je voudrais reprendre
sur le plan rentemplant. Je ne trouve pas anormal qu'on prenne les devants. Franchement, j'accepte tout à fait l'explication sur l'arrêt du nucléaire. Bon, mais on voit bien que c'était une autre époque. Une époque où, au contraire, et pour le climat, et la suprématie verte a englobé tout le monde. Bon, on voit bien que c'est un autre climat. Maintenant, bon, c'est une erreur. On l'a dit souvent ici, parce que c'est un gros atout de la France. Donc, c'est une erreur.
On a fermé Fessenheim, du coup, on refait marcher des centrales à charbon.
Je finis
bravo,
juste. Hein. Je trouve que le plan... Rentemplan évoque d'autres plans, ceux de Georges Pompidou à un moment donné, ceux du 19 degrés de Giscard à un autre moment. Donc je ne suis pas contre ce plan. Simplement, ça me paraît refaire l'écho du plan et des petites mesures, des mesurettes pour le Covid. Et je trouve que pour le moral, passer du masque à l'essence, passer des petits gestes du Covid aux petits gestes de l'électricité, moi j'ai le moral à zéro.
Charles voilà.
Oh, mais tu es déprimé, Michel.
Non, moi je ne crois pas qu'il faille prendre à la légère cette affaire de sobriété énergétique, parce que la facture peut être colossale. Et justement, avec l'anémie du parc nucléaire français, ça peut être beaucoup plus colossal qu'on ne l'imagine. Et je vous rappelle qu'en 1973, à l'occasion de la guerre du Kippour et de l'OPEP, l'Organisation des pays pétroliers, qui avait augmenté du double la facture de livraison du pétrole, le président Pompidou, en 1973, a prononcé un discours à la télévision, et je vous rappelle le texte, très court, « Je fais appel à l'esprit d'économie du peuple français, économisons l'essence, économisons l'électricité, économisons le chauffage et cela suffira à diminuer notre consommation. » C'est les mêmes mots. C'est quasiment les mêmes mots.
Absolument,
et en 74 et en 77, Giscard, lui, avait repris le slogan « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. » Et Roger Giquel à TF1, au journal de 20h, a demandé à tous les Français d'éteindre leur lumière.
En 77, ça.
En 77. Et l'EDF a fait un communiqué dans la foulée en disant que 150 milliers de kilowattheures ont été économisés, soit l'équivalent de la consommation d'une ville comme Nice et Nancy. Le problème, c'est que, et sur le plan des grandes industries, et sur le plan de la fonction publique, ces économies sont obligatoires quasiment parce que elles vont grever le budget de toutes les villes, de toutes les petites et grandes villes. Et à partir de là, vont amputer tous les investissements d'avenir et les investissements de la fonction publique par rapport aux citoyens, justement, qui habitent ces villes. Et c'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux, quand même,
donc,
ce plan de sobriété.
Donc, conclusion, très pour ce plan de sobriété.
Oui, non, mais c'est le début de la décroissance.
C'est le début de la décroissance. La sobriété, c'est aussi la publicité. Alors, on revient juste après. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
10h42, avec les grandes voix, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney. Voici ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Les 5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Est-ce un appel à l'insurrection ou est-ce que c'est un plan pour faire oublier l'affaire Caténins, Michel Cotta?
Ben, je crois que ce soit les deux. C'est les deux à la fois. C'est vrai que quand on balance quand même, ils ont fait revenir le roi, faites plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire décapiter le roi, ce qui est arrivé aussi. Bon, et alors il dit, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ben, bon, c'est dans l'esprit des gens, c'est ça. Donc c'est déjà une provocation rare. Mais est-ce que ça fait pour autant oublier Quatennens? Moi, je dirais que ça s'ajoute pour faire chuter la cote de Mélenchon et pour qu'on se dise maintenant, qu'est-ce que fait Mélenchon sinon faire le jeu quand même de Marine Le Pen, qui est beaucoup plus astucieuse, beaucoup plus maintenant silencieuse par moment et offensive à d'autres, mais en tout cas dans des domaines...
C'est la stratégie de la cravate.
Mais c'est une stratégie qui se veut modérée face à quelqu'un dont on ne voit plus du tout le personnage. On ne comprend plus le personnage Mélenchon. C'est-à-dire qu'à la fois, de temps en temps, paraît-il, il s'interroge en se disant « Ah, mais est-ce que je ne fais pas le jeu du Front National ?» Et à d'autres moments, il balance des communiqués
C'est des coups de sang. C'est la République, c'est Le naturel revient au galop.
Il doit se sentir quand même un peu remis en cause. Il a voulu s'éloigner. Puis on voit bien qu'il revient dans le jeu, comme s'il ne pouvait pas faire autrement. Et puis surtout, on voit bien les sondages. Et dans les sondages, c'est la NUPES qui paye gravement, gravement, pas le Parti Socialiste qui s'en sort.
Parce qu'il y a eu des contrefeux d'Olivier Faure aussi, qui dit ni pique, ni fourche.
Vous voyez bien que tout ça affaiblit le personnage de Mélenchon, mais affaiblit aussi la NUPES, dont on se demande quand même d'accord, c'est un accord électoral d'abord, mais on se demande si cet accord électoral résistera aux facéties de Jean-Luc Mélenchon.
Catherine Ney.
Moi, je crois qu'il aime toujours choquer, jouer les révolutionnaires, mais là, il a fait du plagiat. Parce que figurez-vous que Tony Estanguet, qui est le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, vient d'annoncer que le grand marathon qui aura lieu en août 2024, eh bien, il passera devant Versailles. Il fait tout un périple, 42 km, il y a la canicule, merci, bonjour. Et il dit pourquoi ? Parce que c'est en hommage à ces femmes qui sont allées en marche à l'Élysée, vous voyez, à Versailles, et qui ont fait partir le boulangère. Et dit, c'est ça,
le petit mitron.
C'est le symbole de l'égalité des hommes-femmes. Non, mais moi, je trouve que les sportifs prennent cet événement. C'est un détournement de l'histoire. Ces femmes, elles sont venues non pas pour mettre à bas le roi, mais parce qu'elles se plaignaient qu'elles ne recevaient plus de farine, parce qu'elles étaient victimes des accapareurs, des meuniers,
de certains
même membres de l'Assemblée, c'est-à-dire du capitaliste. Mmh. Et elles disaient au roi, aidez-nous. Et puis après, il y a eu des hommes qui ont tué un peu autour les gardes à Versailles, et c'est comme ça que le roi a pu être amené à Paris, ce qui était déjà sa condamnation. Donc, c'est pour l'histoire, je veux dire que c'est le symbole de l'égalité homme-femme, c'est un détournement de l'histoire.
Moi, voilà. Je voudrais rester sur l'histoire, parce que tu entres dans l'histoire. J'ai relu des choses récemment sur les journées, effectivement, des 5 et 6 octobre.
Oui.
Et on s'est aperçu que cette grande manifestation que tu viens de rappeler, populaire, les femmes, c'était en fait un complot politique, largement un complot politique, avec l'argent du duc d'Orléans, futur Philippe Égalité, et instigé à l'instigation de son âme damnée, qui était Coderlos de Laclos. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de femmes qui étaient dans ce cortège, qui étaient en fait des hommes déguisés en femmes. Et il y a eu un rapport à l'Assemblée à l'époque, à la Constituante, qui a démontré effectivement que c'était une manifestation. Alors je me suis demandé si, comme Mélenchon connaît l'histoire, contrairement à d'autres, politique, lui connaît l'histoire. Ouais. Est-ce qu'il voulait dire qu'il fallait préparer une sorte de complot à travers une manifestation? C'est un peu ça quand il dit faites encore plus. Il y a une espèce de complot robespierriste à travers le propos de Mélenchon. On ne peut pas ne pas voir ça.
Absolument. Je crois d'ailleurs qu'il est comme pas mal de personnalités de gauche. Il considère que la révolution, c'est un tout. Comme Clémenceau d'ailleurs, de 1789 à 1793, jusqu'à la terreur. C'est ce qui l'inspire par sa remarque. Absolument, je suis tout à fait. Ce que je ne savais pas, c'est Coderlos de Laclos, qui est l'auteur de
C'était l'homme de main du duc d'Orléans à l'époque.
Mais moi, je dirais, enfin, à propos de la remarque de cette phrase de Mélenchon, je dis que c'est plutôt le dérapage d'un homme qui n'est plus un député, qui a perdu le contact avec le réel.
Mais il n'est plus à l'Assemblée.
Le chef de la...
Il est sur son avantat,
c'est ce que
il lance
je suis en
des
train de dire.
Voilà. Ben oui, mais j'approuve.
Ben oui, la responsabilité collective, et comme lorsqu'il était, elle a raison de le souligner, Catherine, la tête du groupe parlementaire. Il a perdu le sens du réel, parce que la succession de ces dérapages, il y en a quand même quelques-uns, et il tape à côté en permanence. L'affaire Quatennens l'a très bien montré.
Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas oublié aussi, je reviens sur votre remarque, sur la totalité de l'histoire, puisque la Révolution, effectivement, jusqu'à la fin de la Terreur, à la fin, on a quand même la décapitation des révolutionnaires eux-mêmes. C'est-à-dire que
la révolution
mange toujours ses enfants.
Non, mais c'est ça, la révolution mange toujours ses enfants.
Les dieux ont soif.
Les dieux ont pas un risque en tweetant un truc pareil.
Non, mais
on ne peut pas résumer la révolution aujourd'hui du 5
épisode. Non,
la guillotine maintenant est dans un grenier à Fresnes. Donc, il n'y a plus de problème. Il n'a plus ce risque-là, il ne le court plus. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que toujours ceux qui lancent les révolutions, les premiers sont toujours les derniers à monter sur l'échafaud qu'ils ont dressé eux-mêmes.
Si on revient sur Mélenchon, on s'aperçoit néanmoins que, quelles que soient ses tentatives et quelles que soient ses provocations, ça ne marche pas.
Oui, et qu'il baisse gravement dans les sondages.
Au contraire, dans les sondages, ça ne marche pas. Les gens trouvent quand même qu'il en fait trop. Et au fond, il a recommencé ce qu'il a eu, l'affaire qu'il a eue en disant « La France, c'est moi », etc. Et là, il est, donc tout ce qu'il fait ne marche pas. Je veux dire, on pourrait, au moins, et il faut le souligner, parce qu'il ne faut pas non plus craindre le danger Mélenchon, qui est quand même, qui jour après jour, fait beaucoup de gaffes, beaucoup plus de gaffes que j'aurais pu penser. Et je ne parle pas des problèmes entre femmes et hommes et de la guerre des sexes qui a été ranimée par Sandrine Rousseau. Mais enfin, chaque semaine, après chaque semaine, Mélenchon perd des voix.
Mais et il avait fait un doublé formidable. 22% à la présidentielle, plus le résultat de son alliance qu'il a montée de briques et de brocs qui a marché. Il a fait, c'est son champ, je crois que c'est son champ du cygne. Depuis, tout ce qu'il touche se retourne contre lui. On va voir. Mais il y a l'âge venant.
C'est l'inversion du roi Minos.
En revanche, je vous rappelle que Fabien Roussel est maintenant l'opposant de gauche considéré.
C'est toi, Michel, je crois, qui a dit qu'Olivier Faure a senti le piège et s'en est assez bien sorti. D'abord parce qu'il a un congrès et qu'il sait très bien que son alliance avec la France insoumise, l'hégémonie de la France insoumise au sein de la NUPES ou la NUPES, je ne sais pas comment.
Quand on a posé la question à Mélenchon, il a dit « vous dites comme vous voulez ».
Oui, d'accord. Mais il a pris ses distances parce qu'il sait très bien qu'il a des opposants comme Carole Delga, comme Sébastien Le Foll, comme Lamère.
Tous les gens qui ont signé l'appel à la social-démocratie.
Qui sont contre cette alliance et qui jouent gros, justement, à la tête du Parti Socialiste au congrès prochain.
64% des Français ont une mauvaise opinion de LFI. C'est un sondage tout à fait récent.
Que l'on se posait, d'ailleurs, du côté du pouvoir, c'est est-ce que le fait qu'il y ait une NUPES, enfin, les France Insoumises, qui soit aussi virulent en parole, qui fasse autant de bruit à l'Assemblée, venge un peu les gens qui, sur le terrain, ont envie que quelqu'un s'en prenne à l'État et l'agresse et tout ça. Et est-ce que le fait que leur colère soit représentée à l'Assemblée nationale fait qu'ils seront moins tentés de manifester sur les ronds-points ou pas? Et ça, c'est une question qu'on se pose au pouvoir pour savoir est-ce que c'est un mal nécessaire qu'il y ait vraiment ces insoumis
on va voir si ça se substitue à l'Assemblée. Substitue à la rue ou s'il y aura et l'Assemblée et la rue.
Voilà. Une dernière pause et on revient avec les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Dernière petite partie des grandes voix avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Presque qui vient d'être dit sur cette digression de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est un coup mortel qui est porté à la NUPES, Michel Cotta?
Alors, coup mortel, il faut jamais être affirmatif. Simplement, on a dit que la NUPES était une alliance électorale. Et ça a été le cas. Ça risque d'être un objet de dissension que les élections européennes. Et ce ne sera pas la même chose, c'est-à-dire que la NUPES ne pourra pas faire l'alliance entre des socialistes qui sont plutôt pro-européens et des NUPES qui sont plutôt anti-européens. Et ça va être donc, je ne suis pas sûre que ça ne soit pas aussi la fin à terme du cartel électoral dont on disait que c'était la seule chose que Mélenchon avait réussi.
Charles Villeneuve.
Moi, je suis sceptique. Moi, je ne le crois pas. Je crois que ça va tanguer. Elle a raison, Michel, de dire que ça va secouer, c'est sûr, mais ne coulera pas. Je ne crois pas que la NUPES ne coulera pas. Elle va reprendre des forces sur le terrain économique et social, avec la, la retraite à 65 ans, avec l'assurance chômage, elle aura des os à ronger.
Les électeurs comptent là-dessus. Souvenez-vous ce qui s'est passé quand même en juin. Il y a eu un soutien de la NUPES.
Mais moi, je crois que
la NUPES,
parti de Mélenchon. Ouais. Parce que la NUPES, c'est le cartel. Mais le parti de Mélenchon, il a deux vecteurs de force qu'il a affirmé dans la présidentielle. Il a une grande partie de la jeunesse, c'est important, et il a capté le vote immigré. Et la jeunesse plus le vote immigré, ça fait du monde. Et ce n'est pas les socialistes dont tu nous parlais à l'instant, Michel, représentés par trois caciques, un chef à plume qui n'ont plus aucune vocation.
Tu as raison, parce que je veux dire, la jeunesse, c'est Mélenchon qu'elle admire. Les jeunes ingénieurs qui votaient pour lui, qui n'avaient pas lu son parti, c'est parce qu'il avait du talent. Oui. Et ça, ce n'est pas ceux qui sont dans le parti qui pourront le remplacer. Ce n'est pas Quatennens, ce n'est pas le député d'Amiens.
Tant que Quatennens, l'héritier, il est en jeu.
Oui, mais vous n'empêcherez pas que l'image de Mélenchon soit en train quand même de s'écorner.
Elle est entamée.
Ceux qui ne l'aimaient pas l'aiment encore moins, c'est sûr.
Mais l'image de Mélenchon en a pris un sacré coup.
Merci à vous les grandes voix. Merci Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Vous sentez ces parfums?
Oui.
On vous emmène sur la route de la soie, à la découverte des saveurs voyageuses.
Ce samedi, le chef étoilé
à Cram sera des nôtres. Et puis le chanteur Christophe Willem se met à table avec nous. On vous attend. Passez. À tout de suite.
À tout de suite.
Nous, une voiture.